Chapitre 26. Qu'espères-tu de moi? Demanda Verna tandis qu'elle passait avec Cara devant une torche glissée dans un support en fer. Que je fasse apparaître Nietzsche comme par miracle? Non, je veux que vous découvriez où elle est, et idem pour Anna. Malgré les insinuations de la mort de Cite, la dame abbesse en exercice était déterminée à retrouver les deux disparus, mais elle n'était pas du genre à le crier sur tous les toits. Dans les couloirs de marbre blanc, le cuir rouge de l'uniforme de Cara évoquait irrésistiblement du sang. L'humeur de la mort de Cite, déjà mauvaise au début de la journée, se détériorait d'heure en heure car les recherches ne donnaient aucun résultat. Plusieurs autres morts de Cite et un groupe de gardes du palais suivaient les deux femmes à une distance respectueuse. Adi restait un peu à la traîne et Nathan caracolait en tête en digne seigneur râle. Verna comprenait les inquiétudes de Cara, et en un sens elle s'en réjouissait. Pour la mort de Cite, Nietzsche n'était pas seulement une femme que son maître l'avait chargée de protéger. C'était une amie, et une amie très chère. Même si elle ne l'aurait pas admis sous la torture, Cara était folle de rage parce qu'une personne très proche d'elle manquait à l'appel. Comme la mort de Cite, Nietzsche avait longtemps marché dans les ténèbres en compagnie des serviteurs du mal. Grâce à Richard, toutes deux étaient revenues vers la lumière. Parce qu'il leur en avait offert la possibilité, bien sûr, mais plus encore parce qu'il leur avait fourni une raison de changer. Voir une mort de Cite vitupérée n'angoissait pas Verna. Avec ses femmes, il fallait plutôt s'inquiéter lorsqu'elles devenaient très froides et hautement professionnelles. Parce que leur métier, justement, n'avait rien d'agréable et moins encore de convivial. Quand elles cherchaient des réponses, mieux valait ne pas se dresser sur leur chemin. Cela dit, Cara avait raison de s'énerver. La disparition de Nietzsche et d'Anna était inexplicable et inquiétante au possible. Mais bombarder une pauvre dame abbesse de questions ne pouvait servir à rien quand elle ignorait les réponses. Sauf peut-être à calmer les nerfs de Cara, à rassurer de s'accrocher à sa bonne vieille formation dans les moments de crise. La mort de Cite s'immobilisa, les poings sur les hanches, et sonda le long couloir derrière elle. À une centaine de pas, plusieurs dizaines de gardes s'arrêtèrent net afin de ne pas combler la distance entre eux et les femmes qu'ils escortaient. Une bonne partie de ces soldats brandissait une arbalète chargée d'un carreau à pointe rouge. Ces projectiles dévastateurs donnaient des sueurs froides à Verna. En un sens, elle aurait aimé que Nathan ne les découvre jamais, mais en un sens seulement. Derrière les gardes d'élite et les quelques morts de Cite, le corridor était désert. Plissant pensivement le front, Cara attendit encore quelques instants, puis elle se remit en chemin. Depuis la disparition d'Anna et de Nietzsche la veille, c'était la quatrième fouille en règle de l'ultime sous-sol du palais. Verna se demandait à quoi rimait cette insistance. Des corridors vides restaient des corridors vides. La dame abbesse à la retraite et l'ancienne maîtresse de la mort n'allaient pas jaillir des murs. « Elles ont dû aller ailleurs, » dit Verna. « C'est la seule explication, même si personne ne les a vues. » « Où ça, ailleurs ?» demanda Cara. « Je n'en sais rien, » dut avouer Verna.
« Ce palais est très grand, » soupira Adi.
Refusant de s'arrêter avec les gardes, elle venait de rejoindre la mort de Cite et la dame abbesse.
« Très grand, oui, » approuva Verna.
« Cara, voilà des heures que nous arpentons ces couloirs. Nous passons et repassons par les mêmes endroits avec un seul résultat, constater qu'il n'y a absolument personne. Nietzsche et Anna doivent être dans une autre zone du palais. Ici, nous perdons notre temps. Je sais que nous devons les retrouver, mais nous cherchons au mauvais endroit.
« Elles étaient ici, » marmonna la mort de Cite.
« Oui, tu as raison. Mais toute la différence, c'est le « était », comprends-tu? Vois-tu la moindre trace de leur passage? Elles sont venues, c'est presque certain, mais voilà longtemps qu'elles s'en sont allées. Dans ces couloirs, nous gaspillons notre temps et notre énergie. »
Alors que personne ne bougeait, Cara avança de quelques pas, tous les sens aux aguets. Puis elle se retourna et plaqua de nouveau les poings sur ses hanches.
« Quelque chose cloche ici, » déclara-t-elle. Assez loin devant, Nathan, qui s'était arrêté aussi, se retourna et lança.
« Quoi? Qu'est-ce qui cloche selon toi? »
« Je ne sais pas. » « Il y a un problème et je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. »«
Tu captes une anomalie dans l'air? Un phénomène lié à la magie ?»«
Non, non, rien à voir. » Kara eut un geste agacé puis reposa son poing contre sa hanche.
« Quelque chose n'est pas, eh bien, normal, mais je ne sais pas quoi. »«
Il manque des objets ?» avança Verna. « Du mobilier, des ornements ou que sais-je d'autre ?»«
Non. Si mes souvenirs ne me trompent pas, ces couloirs ont toujours été vides. Cela dit, je n'y suis pas venu ici si souvent que ça. » Darkenral allait de temps en temps se recueillir dans la crypte de son père. Les autres sépultures ne l'intéressaient pas, je crois. Sous son règne, ce secteur du palais était interdit d'accès, et le seigneur Hall y venait plus souvent avec ses gardes du corps qu'avec ses morts de site. Du coup, les lieux ne me sont pas vraiment familiers.
« C'est peut-être pour ça que tu as une impression bizarre, » suggéra Verna.
« C'est possible, »
admit Kara à contre-cœur. Elle détestait l'idée d'être soumise à des perceptions si banalement humaines, mais parfois il fallait se rendre à l'évidence.
Pensif, tous les membres de la petite expédition se demandaient ce qu'il convenait de faire.
Au fond, il se pouvait que les deux femmes réapparaissent et s'étonnent qu'on ait fait si grand cas de leur escapade.
« Anna et Nietzsche voulaient avoir une conversation privée, »
dit Adi.
« Elles ont peut-être cherché un endroit tranquille. »
« Et elles converseraient depuis hier ?» demanda Verna.
« Je n'y crois pas. Ces deux femmes n'ont pas grand-chose en commun, elles n'ont jamais été proches, et je parierais qu'elles n'ont guère de sympathie l'une pour l'autre. Je ne les vois pas bavarder pendant des heures et des heures. »«
Moi non plus, » approuva Kara.
Verna se tourna vers le prophète qui avait fini par approcher.
Savez-vous de quoi Anna voulait parler avec Nietzsche ?
Nathan secoua la tête, faisant onduler sa longue crinière blanche.
Aucune idée, mon enfant. Anna se méfiait de Nietzsche et c'était normal face à une sœur de l'obscurité. Elle lui reprochait d'avoir trahi le Créateur, bien sûr, mais elle se sentait personnellement abusée. En supposant qu'elle ait surmonté sa déception, elle voulait peut-être inciter Nietzsche à revenir vers la lumière.
« Pour ça, un quart d'heure de dialogue aurait suffi, » dit Kara.
« Largement, oui, » concéda Nathan. « Connaissant Anna comme je la connais, elle voulait peut-être parler de Richard avec Nietzsche. »«
Pour lui dire quoi ?»
demanda Kara, soudain tendue à craquer.
« Eh bien... « Je n'en suis pas bien sûr.
Ai-je prétendu qu'il me fallait des certitudes ?»
Le prophète hésita un moment, puis il se résigna à en dire plus.
« Anna m'a souvent dit que Nietzsche était à même de guider ce fichu garçon. »«
Le guider ?»
répéta Verna, aussi suspicieuse que Kara.
« De quelle manière ?»«
Vous connaissez Anna, non ?»
Nathan lissa le jabot de sa belle chemise blanche.
Elle a toujours eu tendance à fourrer son nez partout. Elle s'est souvent plainte devant moi d'avoir un lien trop fragile avec Richard.
Pourquoi pense-t-elle avoir besoin d'un lien avec le seigneur Hall ?
S'enquit Kara.
Malgré la passation du titre à Nathan, la mort de Sid s'entêtait à emparer Richard.
Pour être franche, Verna la comprenait car l'idée d'avoir le prophète à ce poste ne l'enthousiasmait pas beaucoup non plus.
« Elle a toujours cru qu'elle devait contrôler les faits et gestes de Richard, »
répondit Nathan à la mort de Sid.
« Cette femme passe son temps à calculer et à planifier. Elle ne laisse rien au hasard. »«
C'est exact, » confirma Verna. « Un réseau d'espions la tenait informée de tout quand elle dirigeait le palais. Elle avait des agents dans les coins les plus perdus afin de tirer les ficelles quand il le fallait. Elle n'a jamais aimé déléguer et encore moins se fier à la chance. »
Nathan s'autorisa un grand soupir.
« Anna est sacrément entêtée, » dit-il. « Nietzsche s'étant détournée de l'obscurité, elle voulait à tout prix la faire revenir dans le giron des Sœurs de la Lumière, afin qu'elle combatte pour leur cause. »«
Quelle cause ?» voulut savoir Kara. « Et quel rapport avec le seigneur Hall ?»
Nathan se pencha un peu vers la mort de Sid.
« Anna pense que tout sorcier a besoin d'une sœur de la lumière pour orienter ses pensées et ses actes. Elle croit que nous n'avons pas droit au libre arbitre. »«
J'ai peur d'avoir défendu la même thèse, » dit Verna, quelque peu confuse. « Mais c'était avant de rencontrer Richard. »
N'oublie pas que tu as passé beaucoup de temps avec lui,
rappela Nathan.
Anna l'a peu fréquenté, et même si elle a semblé penser comme nous tous à un moment, elle est récemment revenue à ses anciennes croyances et à sa rigidité fondamentale. Je crains que le sort d'oubli ait effacé dans son esprit une bonne partie des nouveautés dues à Richard.
Verna partageait ses inquiétudes.
Nous ne sommes pas en position de trancher en ce qui concerne Anna, dit-elle. Mais la chaîne de flammes nous a tous affectés, c'est évident. Si rien n'est fait, le sort continuera de ravager nos esprits jusqu'à ce que nous ayons perdu la capacité de raisonner. L'ennui, c'est qu'aucun de nous ne peut dire à quel point il a changé. Comme vous tous, j'ai l'impression d'être la même personne qu'avant, mais je sais que c'est une illusion. Nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes et chacun de nous, sans le vouloir, peut nuire à notre cause. Quand nous aurons trouvé Anna et Nietzsche, vous pourrez débattre avec elle de ce sujet fascinant. Pour l'instant, nous ne savons pas où elles sont et il faut étendre les recherches.
Kara s'impatientait et ça n'augurait rien de bon.
Elles n'ont peut-être pas fini leur conversation,
avança Nathan.
Je connais Anna. Quand elle tient un os, elle ne le lâche pas facilement, et comme Nietzsche n'est pas commode non plus.
C'est une possibilité, admit Verna.
Pour convertir une pécheresse et la ramener à la lumière, Anna serait capable de s'éclipser plusieurs jours, j'en suis sûr.
Pour avoir été son prisonnier pendant des siècles, le prophète savait de quoi il parlait.
Nietzsche est dévoué à Richard, dit Kara. Pas à Anna. Elle aurait refusé de s'éclipser, comme vous dites. Ne contrôlant pas la magie soustractive, Anna n'aurait pas été en mesure de la contraindre.
Je suis d'accord, déclara Verna. De toute façon, je ne les imagine pas capables de se volatiliser volontairement sans nous donner de leurs nouvelles.
Pourquoi ne pas demander à Anna où elle est ?
Lança soudain Adi.
Le livre de voyage ? C'est ce que vous proposez ?
Oui, ça paraît le plus simple.
Verna ne parut pas convaincue.
Si elle est quelque part dans le palais, pourquoi Anna consulterait-elle son livre de voyage ?
Et si elle n'était plus ici ?
Insista Adi.
Nietzsche et elle ont peut-être dû partir pour s'occuper d'une affaire urgente. Dans ce cas, qui sait si un message ne vous attend pas dans votre livre de voyage ?
Comment serait-elle sortie ? Demanda Verna. « Nous sommes encerclés par l'armée de l'ordre. »«
Ce n'est pas impossible, »
maintint Adi.
« Je suis aveugle, mais je peux voir avec mon don. Elles aussi. La nuit dernière, il faisait très sombre. Elles ont pu traverser les lignes ennemies sans se faire repérer. Si leur mission était urgente, elles n'ont peut-être pas pu nous prévenir. »«
Vous pourriez réussir ça ?» s'étonna Kara. Sortir par une nuit d'encre et échapper à l'ennemi ?
Bien sûr.
Verna avait déjà entrepris de feuilleter son livre de voyage. Comme elle s'y attendait, elle ne trouva rien de nouveau.
Pas de message, dit-elle en remettant le petit livre à sa place dans sa ceinture. J'en écrirai un à Anna, comme Adi le suggère. Avec un peu de chance, elle le verra et me répondra.
Nathan se détourna, faisant onduler sa cape, et reprit son chemin.
« Avant de filer ailleurs, dit-il, je veux jeter un coup d'œil à la tombe. »«
Laissez un garde ici, lança Kara au soldat. Les autres avec nous. »
Déjà loin devant, Nathan s'engagea dans un escalier sur la droite. La petite colonne le suivit, tous ses membres pressant le pas pour garder le contact. Au pied de la petite volée de marche, le prophète remonta un court couloir en pierre brute. Par endroits, des infiltrations d'eau au fil des siècles avaient laissé de grandes taches jaunâtres, donnant l'impression que la paroi avait partiellement fondu. Très vite, Nathan et ceux qui le suivaient se trouvèrent devant un mur de pierre qui avait réellement fondu. Le prophète s'arrêta devant l'entrée du tombeau de Panisral. Regardant à travers un trou, là où la pierre manquait, il constata que la sépulture restait telle qu'il l'avait vue lors de ses quatre précédentes visites. L'attitude de Nathan inquiétait Verna. Visiblement anxieux et en quête de réponse, le prophète était également furieux, cela se sentait quand on savait regarder au-delà des apparences. La dame abbesse n'avait jamais vu le vieil homme dans cet état. Mais cette rage contenue et pourtant potentiellement dévastatrice lui rappelait férocement quelqu'un. Richard, bien entendu. La fureur tranquille, devait être une qualité d'Hérald, en tout cas elle en avait des frissons glacés. Les somptueuses portes du tombeau, célèbres pour leurs ornements, avaient été remplacées par des blocs de pierre blanche censés sceller la crypte. Cette protection improvisée n'avait pas réussi à enrayer l'étrange phénomène qui ravageait la dernière demeure de Panisral. À l'intérieur, 57 torches attendaient sur des supports en or gravés de runes. D'un geste, Nathan utilisa son pouvoir pour embraser une partie de ses flambeaux. La lueur des flammes fit aussitôt briller les parois en granit rose du tombeau. Au nombre de torches et de vases qui les accompagnaient, 57 dans les deux cas, Verna devina sans peine à quel âge était mort le seigneur Panisral. Posé sur un pilier tronqué, le catafalque semblait flotter au-dessus du sol en marbre blanc, un habile jeu de couleurs et de perspectives. Revêtu d'or, le cercueil de Panisral brillait faiblement à la lueur des quatre torches allumées par Nathan. Avec des murs en granit rose, il devait luire comme un soleil quand les 53 autres flambeaux donnaient de la lumière. Des runes étaient gravées sur les flancs du catafalque et d'autres couvraient les murs de la crypte. En d'autres circonstances, Verna aurait voulu savoir ce que disaient ces antiques textes, là elle leur accorda à peine son attention. Le phénomène qui s'était attaqué à la pierre blanche affectait aussi les parois en granit de la salle. Cela dit, les dégâts étaient moins importants. Verna comprit vite pourquoi. La pierre blanche était une sorte d'appât destiné à attirer la force qui s'attaquait à la sépulture. Tant qu'elle avait rempli sa fonction, les parois étaient restées intactes. Désormais, elle ne bénéficiait plus de cette protection. Les murs et le sol n'avaient pas encore fondu, en fait, ils n'étaient même pas fissurés, mais ils commençaient à se déformer, comme s'ils étaient soumis à une force, pression ou chaleur, qui finirait par avoir raison de leur résistance. Les joints avec la voûte se craquelaient déjà, menaçant de céder dans un avenir très proche. La cause de cette détérioration, à l'évidence, n'était pas un défaut de conception de la crypte. Une force extérieure, mystérieuse mais bien réelle, s'acharnait sur la dernière demeure de Panisral. Nietzsche voulait voir le tombeau parce qu'elle pensait savoir pourquoi ces murs fondaient. Hélas, elle n'avait rien dit de plus précis et aucun indice ne laissait supposer qu'Anna et elle avaient bien inspecté la crypte. Verna avait hâte de retrouver les deux femmes et d'interroger Nietzsche sur cette affaire de fonte. Si elle n'avait aucune idée sur les causes de ce phénomène, ni sur sa gravité d'ailleurs, elle se doutait qu'il n'avait rien de positif. Une seule idée consolait un peu la dame abbesse. Avec l'ordre à ses portes, le palais du peuple n'aurait sans doute pas le temps d'être miné de l'intérieur.
« Seigneur Hall !»
appela soudain une voix masculine. Nathan, Verna, Kara et Adi se retournèrent. Un homme en tunique blanche, orné de sarments de vigne autour du cou et sur le devant, l'uniforme officiel des messagers au palais, approchait au pas de course.
« Que se passe-t-il ? »
demanda Nathan. Même si elle devait vivre encore 100 ans, Verna comprit qu'elle ne s'habituerait jamais à entendre les gens donner du « Seigneur Hall » au vieux prophète.
« Une délégation de l'ordre impérial vous attend de l'autre côté du pont-levis. »«
Que veulent ces gens ?»«
Parlez au seigneur Hall, bien entendu. »
Nathan consulta du regard Kara et Verna qui semblaient aussi surprises que lui.
« C'est peut-être une ruse !»
souffla Adi.
« Ou un piège !» ajouta Kara.
« Dans tous les cas, » dit Nathan, « il vaudrait mieux que j'aille voir. »«
Je vous accompagne. »
déclara la mort de Sith.
« Moi aussi !»
lui fit écho Verna.
« Alors en route, tout le monde !»
s'écria Nathan. Verna, Kara et Adi sortirent du palais sur les talons de Nathan. Dehors, le soleil de la fin d'après-midi projetait sur le grand escalier les ombres interminables des tours et des bâtiments du palais. Dans le lointain, au-delà de l'escalier et de la cour d'honneur, l'immense mur d'enceinte montait la garde au bord du gouffre. Sur le chemin de ronde, des sentinelles patrouillaient jour et nuit, prêtes à donner l'alerte au premier événement suspect. Monter des catacombes jusque-là n'étant pas une simple promenade de santé, le prophète et ses compagnes avaient le souffle un peu court. En descendant le grand escalier de marbre, Verna prit le temps de respirer à fond, quitte à se laisser un peu distancer par le nouveau seigneur Hall. Sur chaque palier, des gardes saluèrent leur chef suprême en se tapant du poing sur le cœur. Beaucoup plus bas, des dizaines d'hommes faisaient la ronde dans la cour. Impressionné par le dispositif de sécurité, Verna se laissa guider jusqu'au grand portail du mur d'enceinte. Une fois la cour traversée, au-delà des écuries et des hangars à carrosses, une large route bordée de cyprès conduisait à la sortie proprement dite du complexe. Le portail passé, la voie d'accès rétrécissait et devenait très sinueuse. Longeant le bord du haut plateau, elle descendait en pente relativement abrupte jusqu'au pont-levis gardé par un détachement spécial de la première phalange. Armés jusqu'aux dents, ces soldats d'élite étaient chargés d'arrêter d'éventuels envahisseurs. Au fil des siècles, ils n'avaient jamais eu besoin de le faire. La route était beaucoup trop étroite pour que quiconque puisse lancer une attaque massive, et de toute façon, dans une position dominante, quelques dizaines d'hommes seulement auraient suffi à repousser une armée entière. Enfin et surtout, il y avait le pont-levis. Une fois dressé, le gouffre qu'il dominait avait de quoi décourager les assaillants les plus téméraires. Impossible à franchir, même avec des cordes à grappins ou des échelles, d'autant plus sous les volées de flèches des défenseurs, cet obstacle naturel assurait à lui seul une bonne partie de la défense du complexe. De l'autre côté du pont-levis, un petit groupe d'hommes attendait la venue du seigneur Ral. À en juger par leur tenue très simple, il devait s'agir de messagers. Verna aperçut aussi quelques soldats, mais ils se tenaient volontairement en retrait afin de ne pas paraître menaçants. Sa cape battant au vent, Nathan se campa au bord du gouffre, les poings sur les hanches. Une véritable incarnation du pouvoir et de la force tranquille.
« Je suis le seigneur Ral, »
annonça-t-il aux émissaires campés de l'autre côté de l'abîme.
« Que me voulez-vous ? »
Après avoir consulté ses camarades du regard, un homme vêtu d'une banale jaquette de cuir sur une chemise grise avança de quelques pas prudents.
« Son Excellence l'Empereur Jagang le Juste m'a chargé de délivrer un message au peuple de Dara. »
Nathan jeta un bref coup d'œil à sa petite escorte.
« Le seigneur Ral représente le peuple d'Aran. Je t'écoute, mon brave. »
Pour mieux entendre, Verna vint se placer à côté du prophète.
« Vous n'êtes pas le seigneur Ral, »
marmonna le messager, de plus en plus mécontent.
« Vraiment ? Veux-tu que j'invoque une tempête magique, histoire de vous balayer de cette route, tes compagnons et toi ? Une fois en bas et en bouillie, seras-tu enfin convaincu que tu t'adressais bien au seigneur Ral ?»
Les émissaires de l'ordre reculèrent instinctivement de quelques pas.
« Nous pensions voir quelqu'un d'autre, c'est tout. »
se justifia le messager.
« Eh bien, je suis le seigneur Ral, et il faudra vous contenter de moi. Si vous avez vraiment un message, allez-y, parce que je n'ai pas que ça à faire. Figurez-vous qu'un banquet m'attend, et je déteste festoyer froid. »
L'homme finit par esquisser une révérence.
« L'empereur Jagang, dans sa grande bienveillance, a une proposition à faire aux défenseurs du palais du peuple. »«
Quelle proposition ?»
Le juste n'a aucune envie de détruire le complexe et d'exterminer ses occupants. En cas de reddition, vous aurez tous la vie sauve, sinon vous mourrez dans d'atroces souffrances. Ensuite, nous jetterons vos corps dans le vide afin qu'ils nourrissent les vautours une fois au fond du gouffre.
« Feu de sorcier !» souffla Kara dans le dos de Nathan.
« Plaît-il ? »
répliqua le prophète sans se retourner.
Votre pouvoir est pleinement fonctionnel. En revanche, le leur, s'ils en ont, est affaibli par la proximité du palais. S'ils invoquent un champ de force défensif, ça ne suffira pas à les protéger.
Nathan fit un grand geste courtois aux émissaires massés de l'autre côté de l'abîme.
« Auriez-vous l'obligeance de m'excuser un moment ?»
Le porte-parole de Jagang inclina légèrement la tête. Nathan entraîna ses compagnes vers l'endroit où attendait un groupe de morts de Sith et de gardes du palais.
« Je suis d'accord avec Kara, »
dit Verna avant que le remplaçant de Richard ait pu ouvrir la bouche.
« Répondons dans le seul langage que l'ordre comprend. »
Le prophète fronça ses sourcils broussailleux.
« Je crains que ce ne soit pas une très bonne idée. »«
Et pourquoi ça ?»
demanda Kara en croisant agressivement les bras.
Jagang nous épie sûrement à travers les yeux d'un de ses hommes,
dit Verna.
Kara a raison, montrons-lui notre force.
Ta réaction m'étonne beaucoup, Verna,
déclara Nathan. Il eut un petit sourire à l'intention de Kara.
De ta part, c'est beaucoup moins surprenant, je dois le dire.
Qu'est-ce qui vous ébobie à ce point ?
Grogna la dame abbesse.
Carboniser ces gentils hommes est une très mauvaise idée, ma chère. D'habitude, tu es de bien meilleurs conseils.
Verna se retint d'exploser.
Devant les yeux de Jagang, se lancer dans une diatribe n'aurait pas été très judicieux, mais il n'y avait pas que ça.
Durant une bonne partie de sa vie, Verna avait cru dur comme fer que le prophète était fou allié. Aujourd'hui encore, elle doutait de sa santé mentale, et de toute façon, tenter de le faire changer d'avis revenait à vouloir convaincre le soleil de se lever à l'ouest.
« Vous n'envisagez quand même pas une reddition ?»«
Bien sûr que non. Mais on ne tue pas les gens parce qu'ils vous proposent gentiment de vous rendre. »
« Sans blague !»
lança Kara. D'un coup de poignet, elle fit voler son agiel au creux de sa paume.
« Moi, j'affirme que tuer ces crétins serait une excellente initiative. »«
Et moi, je maintiens le contraire !»
insista Nathan.
« Si je les carbonise, Jagang saura que nous n'avons aucune intention de réfléchir à sa proposition. »«
Et alors ?» demanda Verna. « Où est le problème, puisque c'est bien le cas ?»
Si nous vendons la mèche sur nos intentions, les négociations seront closes.
On s'en fiche puisqu'on ne veut pas négocier.
Certes, mais nous ne sommes pas obligés de le crier sur tous les toits.
Et pourquoi ça ?
Rugit Verna, depuis longtemps à bout de patience.
Pour gagner du temps,
répondit Nathan.
Si je fais griller ces messagers, Jagang saura ce qu'il en est de son offre, pas vrai ? « En revanche, si je fais mine de réfléchir, les négociations traîneront en longueur. »«
Quelles négociations ? »
s'écria Verna.
« Et pourquoi faire ? »
enchaîna Kara.
« Qu'avons-nous à y gagner ?»
Nathan soupira comme s'il se désolait de parler avec une bande de demeurés.
« Un répit, voilà ce que nous avons à y gagner. Ne comprenez-vous pas ? » Jagang sait à quel point il est difficile de conquérir le palais. À mesure qu'elles s'élèvent, leur rampe devient de plus en plus difficile à construire. Pour en venir à bout, nos adversaires auront besoin de tout l'hiver, et ça ne suffira peut-être pas. Jagang n'est sûrement pas ravi que son armée soit condamnée à passer des mois dans les plaines d'Azrit. Si une épidémie se déclare, il risque de perdre des centaines de milliers d'hommes, et il y a aussi la question du ravitaillement. S'il croit que nous envisageons de nous rendre, Jagang peut décider de ralentir la construction de la rampe afin de ménager ses troupes. En le faisant lambiner, nous retarderons d'autant l'achèvement de l'ouvrage. En revanche, une réponse musclée l'incitera à mettre les bouchées doubles. Pourquoi pousser notre ennemi dans la direction qui nous arrange le moins ?
Verna eut une moue dubitative.
« C'est assez logique, »
concéda-t-elle. Voyant le sourire triomphal de Nathan, elle ajouta
« Enfin, à première vue. »« Moi, je ne trouve pas, »
maugréa Kara.
« Même à première vue. »
Nathan écarta théâtralement les bras.
« Pourquoi révéler nos intentions à Jagang ? Nous n'avons rien à y gagner. Laissons-le mariner dans son jus, se demandant si nous allons finir par capituler. » Sur le chemin de l'ordre, beaucoup de cités ont ouvert leurs portes sans combattre. Il pensera que nous pouvons les imiter, et ça calmera ses ardeurs pour un temps.
J'avoue que manipuler ainsi ses ennemis est une excellente tactique,
admit Kara. Pas de bon cœur, mais ça ajoutait encore au poids de ses paroles.
Laisser vivre ses émissaires ne peut pas nous faire de mal,
soupira Verna. Ravi d'avoir emporté l'adhésion de ses compagnes, le prophète se frotta les mains.
« Je vais annoncer à ces gentilshommes que nous allons réfléchir à l'offre, ô combien généreuse, de Jagang le Juste. »
En le regardant s'éloigner, Verna se demanda si Nathan n'avait pas une autre raison de faire cette déclaration. En d'autres termes, n'envisageait-il pas pour de bon une reddition ? Les promesses de clémence de l'empereur ne valaient rien, la dame abbesse en était convaincue. En revanche, s'il manœuvrait bien, Nathan pouvait conclure avec les vainqueurs un arrangement très avantageux pour lui. Par exemple, rester le seigneur Ral en titre d'un royaume de Dara placé sous l'autorité de l'ordre. Une fois la guerre finie, Jagang aurait besoin d'hommes de paille. Nathan pouvait-il se renier à ce point ? Tout dépendait de la rancœur qu'il gardait à l'âme après des siècles d'enfermement injustifié. car enfin sa détention n'avait été que préventive. Pour ce que Verna en savait, il n'avait jamais commis l'ombre d'un crime. Avec les meilleures intentions du monde, les Sœurs de la Lumière, en maltraitant un innocent, avaient peut-être semé les graines de la destruction. Pour se venger, Nathan pouvait tout à fait prévoir de livrer aux chiens l'honneur et la vie de ses anciennes geôlières.